Jean-Pierre Murat, l'âme fatale. Les mois passent et l'affaire Maillerie est peu à peu oubliée, remisée dans un coin des esprits et dans des cartons. La famille Pichon a quitté le Creusot dès 1987. Il était trop difficile de vivre au milieu des souvenirs de Christelle et des gens qui l'oublient. Lors du déménagement, Marie n'a rien gardé. Elle n'est plus qu'un fantôme pour ses deux filles qui restent. Chacun fait son deuil comme il le peut, et plutôt mal. L'affaire rejoint un dossier que la presse appelle désormais « les disparus de la CIS ». Il s'agit du regroupement de plusieurs cold cases survenus en Saône-et-Loire depuis plusieurs années et toujours non élucidés. Toujours des jeunes filles, toujours des meurtres au couteau. Le 27 avril 1993, l'émission « Témoin numéro 1 », présentée par Jacques Pradel, se consacre à l'affaire. Marie est contactée pour y participer. N'ayant plus rien à perdre, elle accepte. La mystérieuse Marilyn est présentée comme une des pistes non explorées. Les enquêteurs ont pourtant fait les recherches, certes sans consigner de rapport. Mais puisqu'il n'y avait rien à consigner. Trois autres années défilent sans qu'il ne se passe quoi que ce soit. Fin 1996, un nouveau meurtre est ajouté à la triste liste des disparus de la CIS. Christelle Blétry a été tuée au cœur de la nuit du 28 décembre à Blanzy, de 123 coups d'une lame courte et fine. Marie Pichon vit cette affaire comme un écho à la sienne. Le même prénom que sa fille, la même mort violente, les mêmes questions, la même douleur. Un ami de Marie-Rose Blétry crée dès 1997 Christelle, une association d'aide aux victimes qui a pour but de trouver des fonds afin de payer des avocats pour les familles endeuillées. Une réunion publique est annoncée dans le journal local. Marie s'y rend, sans grand espoir. Elle s'assied au fond de la salle et écoute. Ce n'est qu'à la fin de la présentation qu'elle se présente à Marie-Rose. Unies par le même combat, la même souffrance, les deux femmes ne vont plus se quitter. Côté police judiciaire, le dossier est enterré sous une montagne de paperasse. Même s'ils le souhaitaient, le non-lieu rendu en 1990 leur interdit de poursuivre l'enquête. Pourtant, ils continuent de recevoir des courriers anonymes accusant l'un ou l'autre des jeunes du quartier. Ces courriers sont consignés, mais aucune vérification n'est pourtant effectuée. Un jour de 1998, un homme d'une trentaine d'années déboule au commissariat avec un revolver. C'est Toussaint Podjalé qui le reçoit. L'homme déclare qu'il porte cette arme pour se protéger de Michel Bartolo, qu'il considère comme le meurtrier de Christelle. Cet homme, c'est Jean-Pierre Murat. Tout le monde le connaît dans le quartier, on sait qu'il raconte n'importe quoi. En d'autres termes, il est considéré comme un malade. De plus, l'alibi de Michel Bartolo a été vérifié plusieurs fois. Il était en cours à 100 km de là, c'est imparable. L'arme est saisie, l'homme remercié et renvoyé chez lui. En 1999, les sous-sols du tribunal de Saône-et-Loire sont inondés. Nous comprendrons l'importance de cet événement seulement 4 ans plus tard. Mandaté par l'association Christelle, maître Didier Seban écrit au tribunal le 24 janvier 2003 afin de faire ressortir les scellés de l'affaire et demande des expertises ADN. Son cabinet a fait des miracles avec des cold cases grâce à cette avancée scientifique majeure. Une semaine plus tard, le tribunal lui répond qu'ils ont été détruits en février 1999 suite au non-lieu, soit 10 ans après, comme le veut la procédure. Sauf que l'ordonnance date de 1990. Le PV de destruction est absent du dossier. C'était peut-être en 2000 finalement. Qu'est-ce que cela change? De toute façon, en 2003, le délai est passé. Maître Seban apprendra plus tard que ces scellés ont en réalité été évacués par un employé trop zélé, chargé de nettoyer les dégâts des inondations. Des dizaines de dossiers ont subi les mêmes avaries, des centaines de scellés sont perdus à jamais. Peut-être était-ce pourtant là le seul moyen de retrouver le meurtrier de Christelle. Nouveau coup dur pour la famille. Ne reste que quelques lettres et les PV d'interrogatoire. Cela représente tout de même des centaines de pages de dossiers épluchés. Toussaint Podjalé étant parti à la retraite en 1994, c'est donc une autre équipe qui doit gratter l'affaire. Fin novembre 2003, l'association Christelle décide d'embaucher le détective privé, Éric Bellawell, pour reprendre tout à zéro. Aujourd'hui hypnothérapeute, Monsieur Bellawell était autrefois journaliste d'investigation pour le journal Nouveau Détective. Il a suivi, entre autres, l'affaire Blétry. Il s'est ensuite reconverti en détective privé. Pour l'affaire Maïri, il procède comme si le meurtre venait de se produire, avec les éléments à sa disposition. Il retourne sur les lieux, dresse la liste des témoins, des proches de Christelle, tente de les rencontrer à leur domicile ou au moins de s'entretenir avec eux par téléphone. Il parvient à obtenir un rendez-vous avec Michel Bartolo, le petit ami de Christelle à l'époque. Il vit maintenant avec Corinne Joly et leur fille de 11 ans. Le 1er décembre 2003, installé sur le canapé familial, Eric tente de créer un climat de confiance. Le détective précise qu'il est là pour comprendre les faits, il n'accuse personne. Il veut juste être sûr que rien n'a été oublié. Il commence par des questions simples. Comment Michel a-t-il vécu les événements? Comment ça s'est passé pour lui? Se souvient-il de quelque chose, un détail qui pourrait relancer l'affaire? Michel se tord les doigts, il a le regard fuyant. Eric sent qu'il va lâcher quelque chose. Après une profonde inspiration, Michel admet qu'il a quelque chose à dire dont il n'a jamais parlé à personne, qu'à l'époque, ça lui a paru être le délire d'un malade, mais qu'il a toujours eu un doute. Eric Bellawell ne croit pas à sa chance, il est tout ouï. Michel se lance. Un soir, c'était en 89 ou 90, deux potes ont débarqué à la maison, à Chenôve. C'était Eric Benzoni et Jean-Pierre Murat. On a pas mal bu et fumé, et d'un coup, Jean-Pierre s'est mis à pleurer et me lâche que c'est lui qui a tué Christelle. Il me demande pardon et me propose 2000 francs en dédommagement pour que je dise rien. Bellawell est abasourdi. Vous savez qu'il faut absolument dire ça à la justice. Ce sont des aveux, il faut qu'ils sachent. Tente-t-il auprès de Michel. Mais ce dernier, échaudé par ses précédents entretiens avec la police, n'est pas très chaud pour recommencer. Le détective insiste. C'est si important qu'ils pourront relancer l'enquête, empêcher la prescription. Michel Bartolo accepte finalement de signer un courrier, rédigé par le détective, relatant tout ce qui vient d'être dit. Corinne Joly signe également en tant que témoin de leur rencontre. Elle précise qu'elle était là aussi le soir des aveux de Murat. Elle confirme ce que dit son compagnon. « Je me souviens que je lui ai dit « Tu te rends compte de ce qu'il dit ?» Et Michel a répondu un truc du genre « Oh, tu sais, il n'a pas toutes ses cases. Il dit ça pour se rendre intéressant. » On est passé dessus ensuite. Évidemment, la première chose que fait Eric Bellawell en sortant de chez Michel est d'aller rencontrer Jean-Pierre Murat. Lorsque le détective se présente, Murat est seul. En apprenant la raison de sa visite, Murat demande tout de suite si on a retrouvé l'assassin de Christelle. Il cherche à obtenir des éléments de l'enquête. Pendant qu'ils discutent, Bellawell observe la pièce. Il y a des couteaux partout. Murat semble les collectionner. La discussion s'engage et le détective demande à Jean-Pierre s'il sait quelque chose sur l'affaire. Murat répond qu'il faut interroger les gens qui habitaient la cage d'escalier de l'immeuble de Christelle Maïri. Jésus Lozano, Joseph Scordo et sa sœur. C'est tout ce que ce détective arrive à tirer des propos incohérents que Murat tient ce jour-là. Bellawell envoie un rapport complet au procureur qui ordonne une enquête préliminaire le 14 janvier 2004. Dans son courrier, Bellawell mentionne également un certain Jean-Yves Falconieri. Le jeune homme ressemble beaucoup au chanteur Renaud. Il était un peu plus âgé que Christelle à l'époque des faits, portait les cheveux à hauteur des épaules et il est connu des services de police pour divers vols et voies de fait. À l'époque toujours, on sait qu'il traînait dans le quartier des Charmilles. Curieusement, Michel n'est pas convoqué, pas entendu. Et les semaines passent. Michel meurt subitement d'une crise cardiaque en mai 2004, devant sa compagne. Pour l'affaire Christelle Maïri, il ne reste que cette lettre qu'il a signée et les autres témoins. La police judiciaire n'apprend le décès de Michel que parce que Yves Pichon, le beau-père de Christelle, lit le journal local tous les matins. Voyant le nom apparaître, il contacte Maître Seban, qui lui-même prévient le procureur, qui transmet à ses effectifs. Michel Bartolo n'est donc pas interrogé par la PJ, mais Corinne Joly non plus. Pas plus qu'Eric Benzoni, Jean-Yves Falconieri ou Jean-Pierre Murat. Autre demande des avocats. Puisque les scellés ont disparu, il reste les cartes postales. Elles ont été timbrées avant l'avènement de l'ADN. Aujourd'hui, les moyens ont progressé. Peut-être l'auteur a-t-il laissé des traces. Peut-être sont-elles encore présentes. À l'époque, les timbres n'étaient pas autocollants. Pour les apposer, il fallait les humidifier. Que faisons-nous par réflexe? Vous l'aurez compris, il y a de fortes chances pour que l'ADN du corbeau figure encore, bien à l'abri, entre l'enveloppe et le petit carré dentelé. Les analyses sont faites et les résultats reviennent rapidement. L'ADN est identique sur les deux cartes. Évidemment, on le passe au fichier national automatisé des empreintes génétiques, le FNAEG. Et comme la chance fait défaut à ce dossier depuis le début, cela ne donne rien. La piste s'arrête là. À l'époque, les enquêteurs clôturent l'enquête préliminaire en indiquant qu'il n'y a plus rien à faire, à moins de pratiquer des prélèvements d'ADN sur toutes les personnes figurant dans la procédure initiale. L'avocat de Marie Pichon ne lâche rien. Ce banc harcèle le parquet afin d'obtenir une commission rogatoire. Elle finit par être ordonnée le 21 juillet 2005, 18 mois après la réouverture de l'enquête, 19 ans après la mort de Christelle Maïri. Le juge d'instruction de Chalon-sur-Saône, Emmanuel Vion, déjà chargé de l'affaire Blétry, est désigné pour ce dossier. C'est un soulagement pour tout le clan Maïri. Ils savent ce juge investi et opiniâtre. Cette fois, ça y est, les choses vont enfin bouger.